Bonjour et bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous allons parler de réunion. La réunion a sa spécialité, ses experts, et donc aujourd'hui, nous recevons un réunionologue. Et donc j'ai beaucoup de mal à dire tous ces mots. Je ne sais pas pourquoi le gno et le lo se mélangent. Donc je vais faire mon mieux pour accueillir Louis Vareille aujourd'hui pour parler de comment rendre nos réunions efficientes. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un métier fabuleux. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit de taper Turbine à Bonheur dans Google ou Turbine à Bonheur tout au singulier.com. Vous enlevez le tout au singulier et ça fonctionne. Bon, j'espère que certains d'entre vous m'auront compris. Le mieux, c'est de retrouver tout de suite Louis Vareille. Bonjour Louis Vareille.
Bonjour Johanna.
Je suis heureuse de vous recevoir dans ce podcast parce que il y a un hasard surprenant. On a travaillé dans les mêmes locaux, la même société mais qui a été rachetée. C'est-à-dire que je travaillais pour Numico à Schiphol Airport et vous avez travaillé pour Danone quand ça a été racheté par Danone peut-être 2 ans après.
Oui, ben, j'ai envie de dire, rien de surprenant, le monde est petit. Le monde est petit, surtout quand on ouvre les yeux.
Et c'est drôle parce qu'on connaît plein de gens en commun.
Ben écoutez, forcément, mais c'est pas quelque chose qui me surprend beaucoup. À chaque fois qu'on prend le temps de parler à quelqu'un, de lui poser quelques questions sur son parcours, il y a forcément des points de rencontre, des amis communs. Ça me semble assez systématique. C'est la vie.
Ok. Moi, je trouvais ça extraordinaire. on va peut-être commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours en quelques minutes?
Oui, ben bien sûr. Écoutez, donc je m'appelle Louis Vareille, j'ai 56 ans. Je suis marié depuis plus de 30 ans et j'ai la chance d'avoir 3 enfants qui ont respectivement 30, 28 et 26 ans. De formation, je suis vétérinaire et complété par un DESS de gestion d'entreprise. Et en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle dans une société de conseil en hygiène alimentaire. Et au bout de 5 ans, l'entreprise s'était bien développée, on était déjà 12. J'ai eu une offre pour rentrer chez Danone. Et à l'époque, j'ai rejoint un centre de recherche de Danone qui se trouvait en Corrèze, à Brive, et qui travaillait pour des marques, je peux en citer quelques-unes, comme Amora, Maille, Panzani, William Sorin, Marie, Vivagel, Petit Jean, etc. Et donc, le centre de recherche travaillait pour ce qui s'appelait à l'époque la branche épicerie du groupe Danone. Et là-bas, j'ai travaillé en utilisant mon expertise en qualité et en hygiène alimentaire. Puis ensuite, je me suis occupé d'innovation et c'est comme ça que quelques années après, j'ai rejoint Panzani pour être le directeur, ce qu'on appelait R&D qualité, donc recherche, développement et qualité. Puis j'ai quitté Panzani pour rejoindre Bledina, qui était une société elle aussi du groupe Danone. Là, je me suis occupé de nutrition, réglementation, donc Bledina, c'est la société d'alimentation infantile du groupe Danone en France. Et quelques années après, vous y faisiez référence tout à l'heure, le groupe Danone a racheté une entreprise qui s'appelait Numico, qui était basée donc aux Pays-Bas. Et on m'a demandé de partir aux Pays-Bas pour d'abord prendre une fonction, coordonner les affaires réglementaires pour l'Europe. Puis on m'a demandé de monter la fonction affaires publiques, ce qu'on pourrait appeler lobbying, pour la division, donc c'était global, et donc le poste était basé à Amsterdam. Alors dans cette période, mes enfants étaient déjà assez grands, donc pendant 9 ans, j'ai commuté entre Paris, où était mon épouse, et Amsterdam.
C'est-à-dire commuter tous les jours?
Non, pas tous les jours, bonne question, non, toutes les semaines. Donc en fait, je logeais à Amsterdam, en fait j'avais beaucoup de déplacements, et je revenais le week-end à Paris.
Les positions que vous décrivez, ce sont des positions de manager?
Oui, alors de manager, mais j'ai envie de dire de deux manières. De manager, bien sûr, quand j'étais au début de ma carrière, j'animais une équipe, à la fin on était 12, je disais. Ensuite, quand j'étais centre de recherche, j'avais 7-8 personnes sous ma responsabilité. La R&D qualité, je pense, c'était une trentaine de personnes. Et puis, ce que j'ai fait également, c'est animer des communautés, donc des gens qui n'étaient pas hiérarchiquement sous ma responsabilité. Mais ma responsabilité, c'était de créer le mouvement et de mettre ces équipes au travail, au service d'un même projet. Et notamment, lorsque j'étais en charge des affaires publiques, j'animais des gens qui étaient dans 70 pays et on avait des projets communs. Donc mon rôle, c'était à la fois de créer une dynamique collective, de m'intéresser bien sûr à ce qui se passait dans les pays et de soutenir les personnes dans leur pays, mais également d'utiliser la puissance de la présence internationale pour faire avancer des projets collectifs. Donc,
D'accord.
pour moi, il y a deux manières de manager, management hiérarchique et puis management fonctionnel, où là, il s'agit d'animer des gens qui ne vous rapportent pas directement. Fin 2016, donc il y a maintenant un an, il y a eu des changements d'organisation chez Danone et donc j'ai sauté sur l'occasion pour quitter le groupe et j'ai décidé de créer une activité à la fois de coach et de consultant et c'est comme ça que j'ai décidé de créer ce que j'appelle l'école internationale de réuniologie. Et donc, c'est une discipline que j'essaie de décrire, de définir et de monter en puissance. Et l'idée, c'est d'accompagner les organisations, à la fois des entreprises, mais ça peut être également des administrations, ça peut être des associations, les accompagner pour faire que chaque réunion devienne un lieu de production, d'engagement, enfin de production de résultats, d'engagement des équipes, et également de développement des individus et du collectif. Donc,
Comment on passe de la R&D à ça?
c'est une bonne question. J'ai presque envie de répondre à l'envers, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé animer des collectifs. Donc ça a commencé, j'ai envie de dire, quand j'étais petit. Pas très petit, mais dès que j'étais en classe préparatoire, puis ensuite à l'école vétérinaire, je me suis occupé d'associations. Donc j'ai créé un ciné-club, j'étais ensuite président du cercle des élèves. Ensuite, maintenant, je suis l'animateur des anciens de ma promotion à l'école vétérinaire. Quand j'étais ensuite dans ma première expérience professionnelle, j'étais également engagé dans une association parallèle, qui était la Jeune Chambre économique. Donc dans cette association, j'ai eu la responsabilité, ce qu'on appelait une commission, et il s'agissait de monter un projet pour produire une bande dessinée. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte, dans mon premier job également, j'avais beaucoup d'actions de conseil, mais également d'audit, mais de formation. Donc il s'agissait de mettre en mouvement des gens sur des fondamentaux de l'hygiène. Alors j'intervenais dans des cafétérias flunch, j'intervenais dans des rayons pâtisserie d'hypermarché. Et donc tout ça m'a fait découvrir le plaisir que je pouvais avoir à animer un groupe et à mettre des gens en mouvement. Et en fait, c'est sans doute parce que j'aimais ça, parce que c'était assez évident pour mon environnement, que l'on m'a confié ensuite des responsabilités de R&D ou de qualité ou d'affaires publiques, où il s'agit effectivement de mettre en mouvement des groupes, et pas forcément des groupes, comme je disais tout à l'heure, dont j'avais la responsabilité hiérarchiquement, mais des groupes que je mettais en mouvement au service d'une cause commune. Donc, ça m'a conduit à animer énormément de réunions. Alors, quand je prends le temps de les compter, j'en ai compté, je crois avoir compté 12 000. Alors, je n'ai pas compté à l'unité, mais j'ai calculé un peu le nombre de réunions à laquelle je pouvais participer, auxquelles je pouvais participer, ou surtout celles que je pouvais animer. Et donc, c'est un grand nombre, et dans des configurations très, très différentes.
En vous écoutant, ce qui me vient et qui est un peu la fin, mais quid de la réunionite?
Quid de la réunionite? Ben oui.
Est-ce que dans la réuniologie, on touche à l'éthique de la réunion?
Alors, il y a deux questions. Premier point, d'abord, ce que je dis, c'est que j'ai déposé d'ailleurs le nom réunionologie comme réunionologue. Donc, je suis réunionologue. Et en tant que réunionologue, je répare les réunions et je soigne la réunionite. D'accord? Et donc, la réunionite m'intéresse. Alors, la réunionite, on peut la définir de différentes façons. On peut la définir en disant on fait trop de réunions. Mais il y a une deuxième manière, c'est on fait beaucoup de réunions, mais qui ne sont pas vraiment efficaces. Et qui ne produisent pas ni les résultats que l'on souhaiterait qu'elles produisent, et qui en plus produisent la frustration de personnes qui quittent les réunions en disant j'ai perdu mon temps, en plus on m'a pas entendu, donc j'aurais mieux fait de ne pas y être. Donc ça, ce sont des symptômes de la réunionite. Ma conviction, et après on parlera peut-être d'éthique, mais ma conviction, c'est qu'une réunion qui est bien préparée, qui est conduite correctement, est un moment extrêmement enthousiasmant pour les participants. Je suis en train de travailler, et pas plus tard qu'hier, je parlais avec un psychosociologue, excusez-moi, c'est des mots compliqués, mais où on parlait du flow collectif. Comment peut-on prendre un petit groupe de personnes, de l'ordre de 6 à 8, et les rassembler autour d'un sujet, d'un projet, et les mettre en mouvement de manière à ce qu'ils vivent une expérience collective où le groupe ne fera plus qu'un, où l'objectif a été fixé au démarrage, où à la fin on est capable de vérifier qu'on a atteint l'objectif, et à ce moment-là les gens quittent le groupe avec un sentiment de satisfaction, de puissance, et je peux même vous dire que ces gens-là ont envie de se revoir, parce qu'ils ont vécu cette expérience très très particulière. Un peu d'ailleurs comme une équipe de volleyball peut la vivre lorsque chaque individu au sein d'une équipe, le passeur, le smasher, le serveur, ont réussi à chacun à trouver leur place dans le groupe et vivent un moment vraiment unique, collectif. Donc,
Bon, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait de réunion, mais pourtant là, ce que vous décrivez, c'est comme un Graal. Alors comment on fait ça? Comment on arrive à ce flot de groupe?
alors, comment on fait? Ben, écoutez,
Parce que vous nous faites rêver
oui,
là.
en fait, j'ai rien mis au point, en fait. En réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce que j'ai vécu dans les 35 dernières années ou 40 dernières années lorsque j'ai eu animé des réunions, dans tous les formats que j'ai dit. Deux, j'ai lu énormément. J'ai lu énormément, et là, dans la dernière année, j'ai dû lire une trentaine de livres consacrés aux réunions. Alors, il y en a en France, mais il y en a beaucoup qui sont produits également dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Angleterre. Donc, je me suis inspiré de tout ça. Troisième point, j'ai suivi une deuxième formation au coaching cette année chez HEC. Donc, j'ai la chance d'être executive coach maintenant, certifié. Donc, durant cette formation, il a beaucoup été question de travail collectif, de team coaching. Ensuite, ce que j'ai fait, et j'en parle dans mon bouquin, vivre sa vie en mode Skype. Donc, je me suis beaucoup observé faire. Je me suis beaucoup observé faire, et donc ça m'a permis de capter des choses, des vibrations.
Bah, excusez-moi, je pense que sur la question, c'est mal compris. C'est pas comment vous avez fait pour développer, c'est comment on crée ça dans un groupe. Quelles sont les choses concrètes qu'on peut mettre en place dans une réunion pour que on arrive à ce que vous nous avez décrit comme du rêve?
Oui, alors, oui, d'accord. Donc, je vais y répondre, mais je voulais juste dire de façon très modeste, ce que je veux dire, c'est que j'ai rien inventé. J'ai juste mis des choses dans l'ordre. Et pour moi, les mettre dans l'ordre, c'est considérer qu'il y a des fondamentaux pour qu'une réunion fonctionne. Il y a un cadre, il faut avoir des règles minimum. Il faut qu'elles soient claires pour tout le monde. Deuxièmement, il faut être présent. Et aujourd'hui, être présent, c'est un vrai challenge.
Mais attendez, juste pour le cadre.
Oui.
Donc c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans le cadre? C'est le mail qu'on envoie pour dire la réunion. C'est quoi? Il y a l'objectif dedans? Il y a quoi dans le
Alors
cadre?
j'y viens, attendez-moi, je vais juste boucler parce qu'il y a 6 points qui sont importants et j'y reviens. Il y a le cadre, je vais y revenir. Il y a deuxièmement la présence. Troisièmement l'écoute. C'est effrayant la manière avec laquelle il est difficile d'écouter aujourd'hui. Et la télévision nous montre souvent ce que c'est que ne pas écouter. Et ensuite, il y a trois secrets pour la réunionologie. Un, c'est commencer par la fin, être clair sur ce qu'on veut obtenir. Vous avez parlé d'objectifs. Deux, être sûr que tout le monde va pouvoir utiliser son talent. Et trois, oser le progrès, c'est-à-dire être en permanence dans une approche d'évaluation de ce que l'on a fait. Et donc, tout ça, ça fait partie donc des fondamentaux et des secrets de la réunionologie. Quand ils sont mis en application de façon disciplinée, eh bien, on arrive à l'état, donc, au Graal dont vous avez parlé, Johanna, c'est vos mots, parce qu'on va arriver à faire travailler le groupe ensemble. Alors, quand je parle de cadre, c'est quoi un cadre? Une réunion, effectivement, il y a un ordre du jour. On sait pourquoi on est là. Et cet ordre du jour, on va le renégocier au démarrage de la réunion. Deuxièmement, il y a un cadre, ça veut dire qu'il y a un horaire. Ben, pourquoi les réunions ne commenceraient pas à l'heure? Pourquoi les réunions ne finiraient pas à l'heure? Et quand ça paraît un peu discipliné, mais à partir du moment où on apporte cette discipline, on va créer de la certitude. Et on a tous besoin de certitude. Et il n'y a rien de plus terrible que d'embarquer dans une réunion qui, au lieu de démarrer à l'heure, va démarrer avec un quart d'heure d'avance parce que les gens vont rentrer à tour de rôle dans la salle en disant « Excusez-moi, il pleuvait ce matin » ou « Excusez-moi, il y avait un embouteillage » ou bien « Excusez-moi, j'ai une autre réunion ». Et ensuite, une fois que tout le monde est dans la salle, lorsqu'on va s'engager à ce que la réunion se termine à 16h, il faut que la réunion se termine à 15h55. 15h58, et en tout cas, surtout pas à 16h. Et si les gens qui sont dans la salle sentent qu'il y a un cadre, sentent que la personne qui anime la réunion a un engagement moral, et tout à l'heure vous parliez d'éthique, quasiment éthique, de respecter les gens qui sont dans la salle, et que le 16h sera respecté, eh bien vous allez créer des conditions qui vont créer un espace de liberté. Donc là, on a une sorte de, comment dire, de paradoxe. C'est qu'il faut un cadre minimum pour ensuite créer de la liberté de parole, la liberté de créativité. Et c'est à ces moments-là que l'on peut vraiment créer une dynamique collective qui donne des résultats incroyables.
Mais aujourd'hui, donc, on le fait de mettre des ordres du jour. Quand on n'atteint pas son objectif de réunion et qu'on doit finir à l'heure, comment on fait?
Alors, deux choses. Effectivement, on fait des ordres du jour, mais les ordres du jour, c'est une liste. Point à date sur discussion à propos. Pour moi, c'est pas un ordre du jour, ça. C'est une liste générique d'idées ou de sujets dont on va peut-être parler.
Donc, comment on détermine un ordre du
Et ben,
jour?
un ordre du jour, c'est qu'est-ce que je veux avoir produit. Je veux que tout le monde soit informé sur un projet. Je veux qu'une décision soit prise sur un projet. Je veux que la répartition des responsabilités soit claire. Ça, c'est un ordre du jour.
Reprenons l'exemple de je veux qu'une décision soit prise sur tel projet et j'arrive à la fin de mon temps imparti et il n'y a toujours pas de décision.
Alors c'est que sans doute, alors ça peut arriver, mais à mon avis, quand le sujet est bien préparé, quand on a adressé en amont des informations pour que chacun puisse structurer les idées ou ses contributions à la réunion, premier point, enfin au sujet. Deuxième point, s'il y a des règles du jeu qui sont rappelées en début de réunion, que lorsque l'on prend la parole, on a quelque chose qui porte sur le sujet et non pas des histoires qui portent sur ce qu'on a fait la veille, le lendemain ou le surlendemain, ou qu'on va faire le. Enfin, qu'on a fait dans le passé. Si, lorsque l'on prend la parole, on veille à développer une idée à la fois et non pas 47. Si il y a un facilitateur qui veille à ce que tout le monde ait le même temps de parole, eh bien, ça, on peut y arriver. Si d'aventure, effectivement, on se rend compte qu'on a un ordre du jour qui n'est pas faisable, eh bien, ça se gère. Ça se gère, ça veut dire que normalement, quelqu'un qui a une responsabilité d'animation de réunion va être capable de prendre conscience qu'on est en train de déraper. À charge à lui, dès qu'il sent ça, de stopper la réunion et de dire, je pense qu'on est en train de déraper. Il nous reste 4 points encore à l'ordre du jour. Moi, je pense qu'il faut en retirer 3 pour être sûr que celui-ci, on le traite. Donc ça demande une sorte de jeu de jambes ou de capacité à être vraiment dans l'action et capacité aussi à aller chercher l'avis du groupe par rapport à ce qui se produit.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par la présence ensuite, ce deuxième point dans la réunionologie?
Ben,
J'y arrive toujours pas.
on y est arrivé. Voilà. Mais ben écoutez, c'est quand même assez troublant lorsque vous assistez à des réunions où chacun a son iPhone ou son Samsung posé sur la table avec l'écran vers le haut, Parfois, il y a des gens qui viennent avec deux téléphones, qui laissent croire au groupe que dans l'heure qui vient, il faut absolument qu'il soit prêt à répondre à tout SMS qui va venir. Donc, le jour où vous dites, écoutez, les smartphones restent hors de la salle durant la demi-heure ou les 45 minutes qu'on va consacrer à cette décision importante, vous allez gagner de la présence. Quand ensuite, vous prenez le temps, lorsque la réunion démarre, de donner la parole à chacun, offrir à chacun l'opportunité de prendre la parole, de se rendre compte qu'il est entendu par le reste du groupe, ça permet également, en général, de créer un décalage, c'est-à-dire de poser une question qui va ramener tout le monde au même niveau. Donc, il n'y aura pas le patron, le sous-patron et les...
Par exemple, quel type de question?
Alors, moi, ce que j'ai modélisé, il y a trois façons de faire une inclusion. Vous pouvez faire parler les gens sur le passé, le présent ou le futur. Le passé, de quoi êtes-vous fier que vous avez pu faire la semaine dernière? Qu'avez-vous pris au petit déjeuner ce matin? Vous souvenez-vous de la première expérience alimentaire que vous avez pu avoir dans votre vie? Donc là, vous allez chercher les gens dans leur passé. Ça peut être dans le présent, comment vous vous sentez maintenant? On parle parfois de météorologie du groupe, du jour, pardonnez-moi. Ou bien ça peut être sur une projection sur le futur, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter au groupe aujourd'hui? Donc là, c'est quelques exemples. La liste et les options pour créer un processus d'inclusion est quasiment illimitée. Le seul truc, c'est qu'il faut veiller à ce que le temps consacré à l'inclusion soit, pour moi, c'est de l'ordre de 10% de la durée de la réunion. Donc il ne faut pas que ce soit plus long que ça, sinon on consomme trop de temps. Mais il faut y investir du temps. Parce qu'en faisant ça, on crée un sas entre ce que les gens ont vécu auparavant. On les fait rentrer dans ce champ collectif et on va les faire partager quelque chose qui va créer de la proximité. Et j'y reviens, ça permet à chacun de s'entendre parler dans la salle. Ça permet à l'animateur collectif ou parfois chacun anime un point de percevoir un peu l'état d'esprit de chacun et ça va faciliter ensuite les échanges.
D'accord. C'était quoi l'étape d'après?
Après l'inclusion, c'est se caler sur l'objectif. Pourquoi on est là?
Donc se caler sur l'objectif, donc l'objectif est exprimé. Ça veut dire quoi se caler dessus?
Eh bien, c'est tous se mettre d'accord. On a tous reçu un agenda ou pas. Il y a des réunions qu'on peut très bien animer sans agenda. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où on va démarrer, on va être clair sur ce qu'on veut produire. Et là, vous pouvez rentrer dans une sorte de négociation, discussion. Ça peut prendre du temps. Mais une fois que tout le monde est aligné sur ce que l'on veut produire, eh ben vous allez pouvoir mettre les gens au travail. Si les gens rentrent dans une réunion en sachant qu'il y a un point à l'agenda qui s'appelle point à date sur le projet X, qu'est-ce que ça veut dire point à date? Combien de temps ça prend? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on veut en tirer? Vous risquez de ne pas créer une sorte d'alignement et de mise en mouvement du groupe sur ce que vous avez prévu. Si par contre, vous dites à la fin de cette réunion ou à la fin de ce point, il faut que nous ayons décidé telle chose ou telle autre chose, vous avez plus de chances de pouvoir mobiliser les gens. Mais, je le redis, pour caler l'objectif, il faut accepter de rentrer dans une négociation, une discussion. Ne serait-ce que
D'accord.
parfois, vous avez envoyé un agenda une semaine auparavant ou 3 jours auparavant. Et il est possible qu'il y ait des choses qui soient passées dans l'intervalle, et donc il y a besoin de renégocier, enfin d'ajuster l'objectif qu'on s'est fixé à la situation donnée.
L'étape d'après, c'est se répartir les tâches dans le groupe.
Oui.
C'est pas les tâches que vous avez dit.
Enfin les rôles et les tâches.
Les rôles.
Voilà. Et c'est fixé.
Donc ça se fait dans la réunion.
Ah oui, ça se fait dans la réunion.
Et quels sont ces rôles?
Ben, il y a celui qui va faciliter la réunion. Il y a celui qui va préparer le compte rendu. Il y a celui qui va s'assurer que le temps dont on a parlé tout à l'heure est correctement respecté. Donc il y a une liberté de prendre la parole en disant attention, on avait prévu de passer 15 minutes sur ce sujet, j'ai le sentiment qu'on est en train de déraper. Et puis on peut également mettre quelqu'un qu'on appelle le méta, c'est ce qu'on fait parfois en team coaching. Donc quelqu'un qui prend un peu de recul et à qui on va demander en fin de réunion de réagir ou de raconter ce qu'il a pu observer et ce sur quoi il recommande le groupe de travailler.
Et qui fait cette répartition des rôles,
Ben
pardon?
ça se fait à tour de rôle, c'est-à-dire enfin, c'est-à-dire qu'on fait tourner. Et à partir du moment où vous avez formé les gens à avoir ces différents rôles, très vite vous avez une sorte de comment dire, les gens se portent volontaires.
Parce qu'il y a celui qui appelle la réunion. C'est pas forcément lui qui va être
Le facile.
animateur de la réunion.
Non. Et on peut très bien imaginer également, dans une réunion, pour peu que ce soit, comment dire, une réunion sur une revue de projet, vous pouvez très bien confier à chaque chef de projet la responsabilité de gérer le point qu'il va présenter avec le soutien du facilitateur. Donc vous allez pouvoir faire tourner les responsabilités en fonction de la, on va dire, de la géométrie de la réunion.
Quand vous avez présenté les différentes étapes, vous avez parlé aussi de que chacun utilise ses talents.
Oui, bah écoutez, c'est à la mesure de ce que je dis dans le sport. Si un jour vous jouez au volley-ball sur une plage, vous allez vite, vite vous rendre compte qu'il y en a qui sont peut-être plus grands, il y en a qui sont peut-être plus vifs, il y en a qui tapent plus fort. Et bien très très vite, le groupe va se gérer, va trouver son équilibre et on va savoir qui va être au filet ou qui va être à l'arrière. Et bien dans un groupe, c'est pareil. À partir du moment où soit les gens se connaissent, soit au travers de l'inclusion et puis du talent du facilitateur qui a peut-être d'ailleurs pris contact avec les différentes personnes au démarrage, très vite on se rend compte que chacun a ses talents, chacun a son regard sur ce qui se passe collectivement. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui prennent du recul, il y a ceux qui synthétisent, il y a ceux qui apportent le détail. Et donc,
Et ça, de votre expérience personnelle, vous pensez vraiment que les gens en entreprise, pour la plupart, connaissent leurs talents et les talents de leurs collègues?
alors, pas tout le temps, mais moi je connais beaucoup d'organisations où les gens connaissent les talents. Et avant de parler de talent, parfois on peut juste parler d'expertise. Moi je me souviens de réunions extrêmement particulières, enfin particulières, mais j'en ai animé beaucoup comme ça, où il y avait à la fois des nutritionnistes, des juristes, des gens qui étaient des experts réglementaires, et puis des gens experts des affaires publiques. Eh bien déjà, sans parler de talent, il y avait une expertise. Eh bien,
Oui, mais
clairement.
c'est deux choses très différentes. Une expertise, on pourrait même dire, il y a un diplôme, on sait quelle est l'expertise d'une personne. Les talents, c'est
Bah, généralement, alors,
moins palpable.
oui, enfin, c'est intéressant. Alors, je vais essayer de répondre à votre challenge de deux façons. Un, c'est pas par hasard qu'une personne est nutritionniste, juriste ou affaires publiques. Donc, ça veut dire que généralement, ces gens ont des profils, des préférences assez typées. D'accord? Et le deuxième point, donc vous avez raison de revenir sur la notion de talent, eh bien, lorsque vous regardez avec attention un groupe, et je vais faire une remarque un peu plus loin, mais lorsque vous portez toute votre attention sur un groupe, très très vite, vous êtes capable de déceler différents types de comportements. Ça me fait penser aux fameuses intelligences multiples. Je ne suis pas un expert, mais je découvre ce concept-là. Il y a des gens qui sont plutôt dans le verbal, des gens qui sont plutôt dans le dessin, des gens qui sont plutôt dans la musique, des gens qui sont plutôt interpersonnels, intrapersonnels. Eh bien, petit à petit, avec de l'habitude, avec beaucoup d'observation et une focalisation sur les individus, vous faites émerger ça. Je rajoute un truc qui peut être intéressant, c'est que on assiste beaucoup à des réunions où les gens viennent défendre leur ego ou bien leur équipe et perdent de vue le projet, donc la raison d'être de la réunion et parfois même la raison d'être de l'entreprise, la cause ou la mission de l'entreprise. Donc un animateur qui fonctionne bien va être capable de décaler les individus de manière à ce qu'ils soient un peu moins au service de leur ego ou de leur équipe, un peu plus au service du projet ou de la cause. Et le rôle d'un animateur n'est pas de défendre son idée, de défendre sa conviction sur le projet. Le rôle d'un animateur, c'est de faire vivre le groupe de manière à ce que l'idée la plus puissante enfin, les meilleures idées puissent émerger et que la plus puissante soit sélectionnée et soutenue ensuite par le groupe. Donc, j'insiste là-dessus parce que je reviens sur cette notion de talent. Un animateur qui fait bien son travail va être focalisé sur les contributeurs et non au service de l'objectif, mais sans imposer sa vision de ce que devrait être la décision par rapport à l'objectif. Est-ce que je suis...
Vous voyez, moi je pense que ça c'est un talent et être un bon animateur, bah, ça demande certains talents. Et comme ça tourne, je vois pas comment vous pouvez utiliser par exemple le talent d'animateur sans que ce soit toujours le meilleur animateur qui soit en charge.
Le point, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise. Bon. Et quand je dis tourner, ce n'est pas tourner de façon systématique en disant on est 10 dans un groupe, à tour de rôle, on va être animateur, scribe enfin, ou responsable du compte rendu. Mais ça fait quand même sens de faire tourner les responsabilités pour que chacun s'expose à différents rôles, avec deux idées en tête. Le premier, c'est que les gens apprennent à le faire. Et pour moi, être quelqu'un qui est un contributeur ou un animateur de réunion, c'est un talent qui va servir pour plein, enfin une compétence, je ne vais pas reprendre le mot talent, mais une compétence qui va pouvoir servir pour beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est que quand vous prenez à un moment le rôle d'animateur ou comment, timekeeper, enfin eh bien, vous mettez un peu à la place de l'autre. Et donc, à la réunion suivante, si vous avez été animateur, si vous avez vraiment vécu de près la complexité qu'il peut y avoir à animer un groupe avec des personnalités très différentes, peut-être la fois suivante, vous serez un peu plus attentif pour ne pas jouer le jeu de la personnalité différente, parce que ça pourrait freiner le groupe. Donc, en faisant tourner les rôles, vous offrez à chacun l'opportunité de voir un peu l'autre côté du miroir et de se mettre en position d'être un peu moins tourné sur lui-même et un peu plus tourné sur le collectif.
Bon, alors on a largement dépassé notre temps imparti.
Voilà, je peux rajouter une dernière chose. Un des principes de la réunionologie, c'est l'évaluation. C'est systématiquement une réunion, une conversation, un échange ne peut pas se terminer sans savoir ce que les gens ont pensé de ce qui s'est passé. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que là, on va trouver matière pour faire mieux la fois suivante. Et en faisant mieux la fois suivante, les individus vont prendre conscience qu'ils ont progressé. Et ma conviction la plus profonde, c'est que le bonheur est essentiellement généré par notre capacité à observer les progrès que nous pouvons faire nous, que les progrès que font nos proches et les progrès que font les autres. Donc, une réunion ne peut pas se terminer sans 10% du temps, à nouveau, ça paraît surprenant, mais consacré à l'évaluation de ce qui vient de se passer.
On va se lancer dans le questionnaire qui est commun à toutes les interviews avec la première question. Est-ce qu'il y a un échec dans votre carrière ou dans votre vie personnelle qui vous a particulièrement fait avancer?
Alors, moi, des échecs, on n'a vraiment pas beaucoup de temps parce que j'en ai des tonnes. D'accord? Et je connais et je serais capable d'en faire une longue liste. Mais moi, il y en a un peut-être qui est intéressant. Quand j'étais patron de la recherche développement qualité chez Panzani, la société a racheté l'entreprise Lustucru. Et donc, dans la fusion, c'est la personne de Lustucru qui était mon alter ego qui a pris mon poste, donc qui est devenue directrice R&D qualité. Et donc moi, j'étais juste qualité. Et donc, bien sûr, c'est une forme d'échec puisque je n'avais pas été sélectionné. Alors, je pourrais faire de la post-rationalisation. C'est la seule personne du comité de direction de Lustucru qui a été conservée dans la fusion. Donc, il fallait bien que quelqu'un enfin, s'y colle d'une certaine façon. Mais en tout cas, ça s'est produit. J'ai pensé qu'il fallait que j'évolue. J'ai évolué, j'ai rappelé, enfin, j'ai activé mon réseau et on m'a proposé un poste de directeur. J'étais plus au comité de direction, j'allais intégrer Bina, mais j'étais plus au comité de direction. Donc, ce qui était quelque chose quand même, qui était une forme d'échec. Expliquer que j'avais été à 35 ans au comité de direction de Panzani, ne plus l'être après 40 ans dans une autre boîte, c'était peut-être insupportable. En fait, ça a été une opportunité géniale. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, j'ai eu un patron exceptionnel, mais surtout parce qu'en fait, j'ai eu un peu moins de pression. J'ai pu prendre un peu de recul sur ce que je faisais et ça m'a permis vraiment de me réapprendre, de me redécouvrir et de me remettre en mouvement pour les étapes suivantes. Donc sur une carrière, c'était un peu, quelqu'un pourrait dire, c'est une sorte de punition ou un retour en arrière. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une expérience incroyable pour préparer la suite.
Là, vous parlez d'une opportunité, donc vous avez pris conscience, mais qu'est-ce que vous avez appris?
J'ai appris sur moi, calmer le jeu. J'ai appris sur être plus attentif à l'autre, être beaucoup plus dans l'écoute, qui est à mon avis quelque chose d'essentiel pour tout manager. J'ai appris comment dire, à structurer davantage peut-être ce que je faisais, être un peu moins instinctif. Donc si vous voulez, le simple fait d'être mis un peu en recul, enfin dans un poste qui était moins exposé, m'a permis de travailler sur mes techniques, enfin, sur mon comportement de manager. L'autre chose aussi que ça m'a amené à vivre, c'est que en comité de direction, j'étais un peu embarqué dans défendre comment dire, mon travail, le travail des équipes, mais je n'étais peut-être pas assez attentif aux équipes elles-mêmes. Dans le nouveau job, j'ai vraiment réappris à être près de mes gens et de me rendre compte que mon succès ne pouvait reposer que sur le leur.
Y a-t-il une technique ou un outil qui vous a particulièrement fait avancer aussi, pareil?
Bah, c'est finalement ce que je viens un peu de dire, c'est sur prendre le temps de prendre du recul, développer la conscience que l'on a de soi.
Comment vous faites ça?
Eh ben, il y a différentes façons. Donc, j'ai écrit un bouquin là, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Vivre sa vie en mode Skype. Ce que je veux dire en disant mode Skype, le mode Skype, c'est ce fameux système où vous avez à la fois sur l'écran principal votre interlocuteur, mais en même temps en bas à droite ou en bas à gauche, vous avez une petite fenêtre sur laquelle vous voyez. Ben, pour moi, se mettre en mode Skype dans la vie, c'est être en permanence attentif à ce que l'on est en train de vivre, à ce qu'on est en train d'être. En interaction avec l'autre. Donc, un, pour connaissance de soi, ça passe par être capable de s'observer soi-même. Deuxième chose, ça c'est regardez-moi. Ensuite, c'est demander à toi. Demander à toi, c'est oser aller chercher le feedback. Oser aller demander à l'autre, mais que penses-tu de ce que j'ai fait? Que penses-tu de la manière à laquelle je l'ai fait? Troisième manière, c'est ce que j'appelle le lui. On a parlé tout à l'heure, c'est le mode méta, c'est demander à un tiers de prendre du recul et puis d'observer ce qui se passe et d'être là aussi capable de faire des commentaires sur ce que l'on a pu faire. Le quatrième mode, c'est le nous, c'est l'évaluation. C'est aussi souvent que possible dans un groupe, dans une interaction, se poser collectivement la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et ainsi de suite. Et la cinquième dimension, c'est le vous. Ça se pratique dans certaines entreprises, le fameux 360, lorsqu'on prend le temps grâce à un cabinet ou une organisation, d'aller interroger des gens autour de soi pour voir quel jugement ou comment ils évaluent votre performance. Donc, ces cinq outils que j'ai cités, l'outil du moi, le mode Skype, l'outil du toi, le feedback, l'outil du lui, le mode méta, l'outil du nous, l'évaluation, et l'outil du vous, le 360, tous ces outils, tout cet investissement va être de nature à mieux se connaître. Et plus on se connaît, plus on est capable d'avancer, d'établir des relations de qualité avec l'autre. C'est le fameux intelligence émotionnelle de Goleman, dont on a beaucoup entendu parler. Donc voilà, donc pour moi, la technique, c'est tout ce que l'on peut faire pour prendre du recul.
Alors, quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Eh bien, ce que je viens de dire déjà, connaissance de soi, et si on se limite, enfin si on concentre sur le manager, donc quelqu'un qui va devoir accompagner d'autres personnes, qui va devoir les développer, c'est tout ce qui touche à l'écoute. Être capable d'écouter quelqu'un, c'est quelque chose de, c'est un véritable exercice, c'est une véritable discipline, et on a souvent tendance à parler beaucoup plus qu'on devrait le faire, et c'est incroyable la puissance qu'il y a chez l'autre lorsqu'on prend le temps de l'écouter.
Est-ce qu'il y a un livre que vous pourriez nous conseiller à la lecture?
Alors, d'abord, à propos de conseils sur les techniques, moi, je recommande de lire beaucoup. Donc, j'ai toujours lu beaucoup. Et je me suis libéré un jour en me disant, lire un bouquin qui fait 250 pages, parfois, c'est pénible. Mais s'il y a juste une idée qu'on va choper au coin de la page 88 et qu'on va mettre en œuvre, elle peut changer le cours de notre vie. Donc, par rapport à la lecture, j'ai beaucoup de bouquins qui me passent par la tête, mais il y en a un qui me semble, pour la partie management, extrêmement performant et surtout facile à lire. Il doit faire moins de 150 pages. C'est Le Manager Minute de Kenneth Blanchard. C'est un bouquin qui a été publié, je crois, il y a une trentaine d'années et qui a ensuite été traduit dans une multitude de langues. Je crois qu'il était vendu à 3 millions d'exemplaires. Eh bien, moi, je recommande au plus grand nombre de le lire parce qu'en fait, il y a trois idées majeures dans ce bouquin. Ça tourne autour de la relation, de l'accompagnement de l'autre. Mais il y a trois idées. Un, être clair sur les objectifs. Deux, être clair et pratiquer les félicitations dites minutes aussi souvent que possible. Donc être capable de donner des feedbacks à l'autre et également les réprimandes minutes, c'est-à-dire être capable, lorsque c'est nécessaire, d'être clair sur ce qui ne va pas. Ce bouquin, à mon avis, est un vrai petit bijou, c'est une pépite, parce que ça se lit très très bien et ça délivre des messages extrêmement simples.
Et y aurait-il une citation qui pourrait définir votre action? Ou en tout cas qui vous inspire?
Ben là aussi, j'en ai pas mal en tête, mais je pense que
On va en prendre
ouais,
une.
bon, vous n'en voulez qu'une, bon, tant pis pour moi
Ouais.
alors. Mais celle moi, qui me parle le plus, c'est la fameuse phrase de Nelson Mandela, enfin une des phrases de Nelson Mandela, qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc là, ça boucle un peu tout ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes, là, à la fois sur la connaissance de soi, sur la valeur de l'échec. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Eh bien, merci beaucoup. Vous avez un site internet de la réunionologie.
Donc je suis présent sur LinkedIn et je voulais être
C'est la meilleure façon de vous contacter?
oui, c'est la meilleure façon et je vais être de plus en plus présent puisque je suis en train de préparer, j'ai déjà publié largement au deuxième trimestre 2017 et là je démarre une campagne de publication d'articles sur la Réunion, la réunionologie, et le premier va paraître dans les prochains jours. Et je fais référence, je pose la question au lecteur, qu'est-ce qu'ont en commun Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page et Jeff Bezos? C'est qu'ils ont tous des disciplines en matière de gestion de réunion qui sont terribles. Et donc ça leur permet d'être actifs, de faire avancer leurs affaires. Alors bien sûr, ça les rend riches, mais je pense aussi que ça leur permet de créer de la valeur en embarquant bientôt des millions de personnes. Donc je pense que les gens qui gèrent bien leurs réunions et de façon consciente peuvent vraiment apporter de la performance et de la valeur dans ce monde.
Eh bien, je vous souhaite une bonne croisade.
Ben, merci, je vais faire de mon mieux. À bientôt.
Il m'aura fallu un épisode, mais je crois que j'arrive à le dire maintenant sans hésiter. La réunionologie. Merveilleux, fantastique. Je progresse. Je progresse aussi grâce à deux auditeurs. Steve, qui est passé me voir en Bretagne et qui m'a dit qu'il était difficile d'entendre les podcasts, que le son était trop faible. En effet, j'ai un retour casque très fort en décalage de ma voix, ce qui me perturbe beaucoup pendant les enregistrements. Et j'avais trouvé le moyen de, en diminuant le son de la bande, de avoir moins de retour. Et non, puis en fait, c'est pas du tout confortable pour vous. Donc Steve, dis-moi, est-ce que c'est mieux? Est-ce que cet épisode a été plus agréable à écouter dans ta voiture cette fois-ci? J'espère que oui, j'attends ton retour. Et le deuxième, c'est Olivier qui m'a prévenu que mon site était kaput suite à l'envoi de ma lettre d'information. Et donc, il m'a conseillé de passer sur un forfait plus musclé, ce que j'ai fait. Et la dernière newsletter est passée comme un charme. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, allez sur Moodstep, moodstep.com. Tous les mois, j'envoie une lettre d'information et je mets tous les podcasts dans la lettre. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Nous allons parler de transformation culturelle des organisations. À mercredi prochain.